VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, bonsoir, Abdourahman Dia au micro pour vous présenter cette édition de 17h30 GMT. On est mardi 14 février 2017 au sommaire. La Gambie confirme son maintien à la CPI et son retour au sein du Commonwealth. La police congolaise a donné l'assaut ce matin contre le domicile du chef d'une secte séparatiste à Kinshasa, faisant au moins 5 morts. Au Nigeria, ouverture d'une enquête après la découverte de plus de 10 millions de dollars en liquide au domicile d'un ancien patron de la compagnie pétrolière nationale. Aux États-Unis, l'administration Trump enregistre son premier sérieux revers après la démission de son conseiller à la sécurité nationale. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. C'est le retournement en Gambie. Le pays restera finalement membre de la Cour pénale internationale après l'annonce en novembre dernier d'un retrait de la CPI par le régime de l'ex-président Yahya Jammeh. Les explications de Jacques Aristide.
C'était une promesse de campagne d'Adama Barrow pour la présidentielle du 1er décembre. Eh bien, c'est fait. Le gouvernement gambien a informé l'ONU de sa décision de réintégrer la CPI, dont la procureure est la gambienne Fatou Bensouda. L'ancien président Jammeh accusait cette juridiction internationale de persécution envers les dirigeants africains. Mais pour les nouvelles autorités, la Gambie se considère comme un État parti du traité de Rome et continuera à remplir ses obligations, notamment dans la promotion des droits humains et le respect de l'état de droit. Ce revirement est également un pied de nez à la récente décision de l'Union africaine de soutenir le retrait de ses membres de la CPI, comme l'ont déjà fait l'Afrique du Sud et le Burundi. La Gambie veut aussi revenir au sein du Commonwealth, d'après Boris Johnson, le ministre britannique des Affaires étrangères, qui rencontre ce mardi à Banjul le président Barrow. La Gambie s'était retirée du Commonwealth en 2013, l'accusant d'être un prolongement du colonialisme. Pour Boris Johnson, la réintégration de la Gambie se fera dans les prochains mois.
Merci beaucoup Jacques Aristide. 5 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées lors de l'assaut de la police congolaise contre le domicile du chef d'une secte dénommée Bundu Dja Congo. La police a également procédé à plusieurs interpellations. Sur l'historique de cette secte, écoutons les explications de Idrissa Seydoudia.
L'assaut contre la résidence de Ne Mwanda Nsemi, prophète autoproclamé du Bundu Dja Congo, a débuté vers 4h30, soit 3h30 GMT. Nsemi, qui affirme avoir eu une révélation, a fondé le BDK, c'est-à-dire le Bundu Dja Congo, dans les années 1980, avec l'ambition de faire revivre le royaume précolonial du Congo qui couvrait une vaste partie de l'Afrique centrale. Au début du mois, au moins 8 de ses adeptes ont été tués dans des affrontements avec la police à Kimpisse, une ville de la province du Bas-Congo, dans le sud-ouest du pays, habituellement épargnée par les violences qui marquent d'autres régions du pays. Des analystes notent que le refus de Joseph Kabila de quitter la présidence à l'expiration de son mandat en décembre dernier a conduit à un regain d'activité de multiples groupes armés.
Idrissa Seydoudia, au Nigeria, une enquête est ouverte sur le cas d'un ancien patron de la compagnie pétrolière nationale. Plus de 10 millions de dollars en liquide ont été découverts dans une de ses propriétés. Les détails avec Idrissa Fall.
La Commission pour les crimes économiques et financiers du Nigeria a saisi 9,8 millions de dollars dans une maison appartenant à Andrew Yakubu, directeur général de la compagnie pétrolière nationale de 2012 à 2014. Aussi, près de 93 000 dollars ont été retrouvés dans la même propriété à Kaduna, dans le nord du pays. Le porte-parole de l'agence anticorruption Wilson Oudjaren s'est refusé à tout commentaire, se bornant à dire qu'une enquête est en cours. Début 2014, le gouverneur de la banque centrale, Lamido Sanusi, avait affirmé que 20 milliards de dollars avaient disparu des caisses de la société pétrolière nationale. M. Yakubu a été renvoyé la même année. Avec cette découverte, il a nié toute malversation, disant que l'argent lui a été donné par des amis. Les images de ces liasses de billets verts empilées dans un coffre-fort ont bien sûr fait la une des journaux. Elles ont d'autant plus choqué que le premier producteur de brut du continent subit une récession et un manque criant de liquidités. provoquée par la chute des prix mondiaux du pétrole.
Idriss Fall, le facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin Mkapa, tentera une nouvelle fois de réunir pouvoir et opposition autour d'une même table de jeudi à samedi prochain à Arusha. L'ancien président tanzanien souhaite aborder pour la première fois des questions de fond telles que le troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza ou la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Les violences dans le centre de la Centrafrique entre groupes armés préoccupent la France. Dans un communiqué, Paris condamne fermement ces violences et appelle l'ensemble des groupes armés à cesser les hostilités et à rejoindre le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement conduit par les autorités centrafricaines. Samedi, un hélicoptère de la MINUSCA a dû intervenir pour stopper des hommes armés qui avançaient vers la ville de Bambari, tuant Joseph Zundeku, un général de l'ex-rébellion Seleka. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Les États-Unis vont débloquer une aide supplémentaire de 25 millions de dollars en faveur de l'Ouganda pour aider le pays à faire face à un afflux important de réfugiés. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadrice américaine à Kampala. L'Ouganda abrite plus d'un million de réfugiés, dont 700 000 ont fui la guerre civile qui frappe le Soudan du Sud voisin depuis décembre 2013. Les deux principaux protagonistes de la crise en Libye, le chef du gouvernement d'Union Faïd al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, devraient se rencontrer en principe aujourd'hui au Caire. M. Sarraj avait confirmé fin janvier une rencontre prochaine avec M. Haftar au Caire sans préciser de date. Homme fort de l'Est libyen et soutenu par l'Égypte, M. Haftar est appuyé par le Parlement élu basé à Tobrouk, hostile au gouvernement basé à Tripoli. L'armée égyptienne annonce la libération de 13 Égyptiens kidnappés dans l'est de la Libye en proie à l'insécurité depuis 2011. Le Caire a indiqué qu'ils avaient été kidnappés par un groupe criminel armé dans la région d'Ajdabiya en Libye. Leur libération a été rendue possible grâce à la coordination avec le commandement général de l'armée libyenne, écrit le communiqué égyptien sans autre précision.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hors du continent ici, aux États-Unis, l'actualité reste marquée par la démission du conseiller du président Donald Trump à la sécurité nationale, le général Michael Flynn. Une démission qui soulève des questions sur ses relations avec Moscou. Les explications d'Eric Manirakiza.
Michael Flynn a tiré sa révérence moins d'un mois après sa prise de fonction. À l'origine, ses discussions téléphoniques avec l'ambassadeur de Russie, trois semaines avant l'investiture de Donald Trump. L'administration Obama avait pris des sanctions contre la Russie pour son ingérence présumée dans l'élection américaine. Le général Flynn aurait confié à son interlocuteur que les relations allaient s'améliorer après la prise du pouvoir de Trump le 20 janvier. Monsieur Flynn a été contraint de démissionner pour avoir fourni des informations incomplètes au vice-président Mike Pence. Mais selon Julian Zelizer, enseignant à l'université de Princeton, cette démission pourrait déclencher de nouvelles investigations, notamment sur la nature des relations entre la Russie et Donald Trump, qui a multiplié pendant sa campagne les propos flatteurs pour Vladimir Poutine. En revanche, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a indiqué qu'il s'agit d'une affaire interne aux États-Unis.
La chancelière allemande Angela Merkel a insisté devant son homologue tunisien sur le fait que les expulsions de demandeurs d'asile déboutés en Allemagne puissent être accélérées, un sujet hautement sensible depuis l'attentat de Berlin commis par un migrant tunisien radicalisé. L'an dernier, 116 ressortissants tunisiens ont quitté l'Allemagne après avoir été déboutés de leur demande d'asile, a indiqué la chancelière lors d'une conférence de presse conjointe à Berlin. Le Royaume-Uni s'est doté officiellement aujourd'hui d'un nouvel outil contre les cyberattaques avec un centre national de cybersécurité censé protéger le pays contre les opérations de piratage Internet orchestrées notamment par la Russie. La création du nouveau centre national de cybersécurité, qui fait partie intégrante de l'agence de renseignement britannique, s'inscrit dans le nouveau plan quinquennal dévoilé par Londres en novembre dernier et doté d'une enveloppe de plus de 2 milliards d'euros. La rencontre de demain à Astana sur la Syrie, parrainée par l'Iran, la Turquie et la Russie, se tiendra à huis clos, mais sans la présence des rebelles syriens. Organisée en amont de nouvelles discussions politiques à Genève le 23 février prochain, cette réunion devrait se focaliser sur le respect du cessez-le-feu et des mesures de stabilisation de la situation dans certaines régions de Syrie. Le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, en disgrâce, a été assassiné en Malaisie. C'est ce qu'ont rapporté en tout cas des médias sud-coréens. Kim Jong-nam était pressenti comme héritier de la Corée du Nord avant de tomber en disgrâce et de s'exiler. Soumis à une pression internationale croissante à propos des programmes nucléaires et balistiques nord-coréens, Kim Jong-un cherche à renforcer son emprise sur le pouvoir. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a jugé prioritaire la question de la hausse du budget de l'Alliance, une manière de répondre aux préoccupations exprimées sur ce point par le nouveau président américain Donald Trump. À la veille de sa première rencontre avec le nouveau secrétaire américain à la Défense, James Mattis, M. Stoltenberg a annoncé qu'en 2016, les dépenses de défense des alliés européens et du Canada ont augmenté de près de 4%, ce qui est nettement plus que ce qui était prévu. L'opération au cerveau que devait subir demain l'ancien dictateur panaméen Manuel Noriega a été retardée de quelques jours dans l'attente de nouveaux examens médicaux. Noriega, qui vient de fêter ses 83 ans, a bénéficié d'une assignation à résidence temporaire pour raisons médicales. Il purge trois peines de 20 ans de réclusion chacune pour la disparition d'opposants politiques sous son régime de 1983 à 1990. Il s'est déclaré innocent des faits qui lui sont reprochés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et l'actualité économique en Afrique, c'est tout de suite sur la Minute Éco, présentée ce soir par Morgane Guiriac.
En Côte d'Ivoire, des petits investisseurs prévoient de manifester samedi à Abidjan. D'après Jeune Afrique, près de 37 000 personnes auraient souscrit à des investissements dans des sociétés agroalimentaires. Problème, les autorités ivoiriennes soupçonnent une partie d'avoir organisé une vaste escroquerie. République démocratique du Congo, le géant minier Glencore annonce le rachat de parts pour un montant de 905 millions d'euros dans deux mines de Mutanda et du Katanga appartenant à l'Israélien Dan Gertler. L'ONG britannique Global Witness a souvent accusé Dan Gertler, un proche du président Joseph Kabila, d'avoir acquis dans des conditions opaques des concessions minières en RDC, l'un des pays les plus pauvres de la planète malgré ses immenses ressources naturelles. Et puis l'Afrique de l'Est affectée par la hausse des prix des céréales. Le maïs, le sorgho atteignent notamment un niveau record en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, en Ouganda et en Tanzanie. La FAO met en cause la sécheresse.
À présent, le journal des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane.
On démarre par la reprise de la Ligue des Champions en Europe.
Duel de prestige entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est tout à l'heure au Parc des Princes. Coup dur pour les Parisiens puisque leur capitaine et défenseur central Thiago Silva, victime d'une gêne persistante au mollet gauche, a dû déclarer forfait. Thiago Motta, lui, est suspendu. En revanche, Pastore est dans le groupe parisien. Dans l'autre rencontre ce mardi soir, le Borussia Dortmund et Pierre-Emerick Aubameyang face au Benfica Lisbonne.
À suivre demain, Real Madrid-Naples avec le retour de Ronaldo.
Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, s'attend à souffrir ce mercredi face au jeu offensif de Naples. C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane lors de la conférence de presse. Zidane qui a appelé ses joueurs à se battre et à rester concentrés. Pour ce match, Cristiano Ronaldo, absent de l'entraînement lundi, a travaillé normalement ce mardi. Il devrait donc conserver sa place dans le groupe madrilène, à l'inverse de Gareth Bale, encore convalescent et non convoqué.
Et Bayern Munich-Arsenal, c'est aussi mercredi.
Le Bayern Munich et Arsenal se sont rencontrés 5 fois en Ligue des Champions, 21e siècle, en phase de poule ou en 8e de finale. Et les londoniens n'ont jamais pris l'avantage sur les Allemands. À 3 reprises déjà en 2005, 2013 et 2014, Munich a éliminé Arsenal en 8e de finale.
On termine avec le championnat de basket nord-américain, la NBA.
Oui, les Warriors, finalistes de la dernière saison, ont reçu une leçon d'humilité corrigée par Denver, 132 à 110. Les Spurs de San Antonio l'emportent face à Indiana, 110 à 106. Le Utah Jazz a confirmé sa mauvaise passe en s'inclinant pour la troisième fois consécutive sur son parquet face aux Clippers de Los Angeles, 72-88. Dans les autres rencontres de la soirée, Washington a fait chuter Oklahoma City, 120-98. Boston l'emporte face à Dallas, 111 à 98. Et Atlanta s'en est sorti face à Portland en prolongation, 109 à 104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Oui, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le centre de la République centrafricaine, toujours en proie à de violents combats. Les FPRC et l'UPC, deux factions de l'ancienne coalition Séléka, s'affrontent dans plusieurs localités du pays. On assiste à ce qui peut être qualifié de bataille de positionnement. À Bangui, les réactions sont plutôt hostiles à ces deux mouvements. Reportage de Freeman Sipila.
De violents combats opposent les deux groupes armés, et cela depuis octobre 2016. Les localités les plus touchées sont les préfectures de la Haute-Koto et de la Waka au centre et au centre-est du pays. Chaque mouvement justifie sa position à leur qualité sous chef d'état-major du FPRC.
C'est une mission que la population nous a donnée de chasser Ali Darassa, qui a transformé la zone de la Waka à une zone infernale.
L'UPC, dirigé par Ali Darassa, un chef de guerre d'origine nigérienne, est constitué en majorité des combattants peuls. Son porte-parole, Souleymane Daouda, explique l'engagement de leurs hommes au front.
Ils veulent se positionner par rapport à quoi? Alors qu'il y a un processus en cours, nous on est pleinement dans le processus. On a des revendications qu'on a adressées au gouvernement légitime, on a adressées à la communauté internationale. On est en train de suivre toutes nos revendications afin que la paix puisse revenir. Et eux, ils ne veulent pas suivre ce chemin, ils veulent partiser le pays. Et c'est pour cela que nous refusons catégoriquement leur politique.
Pour empêcher l'élargissement des combats à Bombari, capitale de la Waka, centre des opérations de l'UPC, la MINUSCA a tracé des lignes rouges. Le samedi 11 février, le chef d'état-major du FPRC, le général Joseph Zoundeko, a été tué dans une frappe aérienne de la force onusienne alors que ses troupes ont franchi une de ses lignes. Le FPRC accuse les casques bleus de partialité, ce que dément le commandant de force, le général Bala Keïta.
On ne connaît ni les gens du FPRC, on ne connaît ni les gens de l'UPC. Ils ne nous intéressent pas en tant que groupe armé. La seule relation qu'on a avec eux, c'est de leur dire, chers frères, nous sommes venus ici pour vous aider à vous parler, à vous retrouver.
Chaque faction se réclame d'un mouvement nationaliste, position rejetée à Bangui. Albert Mbaya, journaliste et directeur du journal L'Agora, parle d'un non-sens.
C'est un non-sens. Ça ne veut rien dire. Au-delà des concepts qui sont englobés dans ces noms de partis, ce n'est pas de mouvements politiques communautaires qu'on fabrique, il y a certainement d'autres raisons cachées qui motivent cette violence dont nos compatriotes sont des victimes aujourd'hui. Aujourd'hui, la RCA fait figure d'un État, c'est le ventre mou de la sous-région, et tous les bandits du continent africain pensent que c'est là qu'il faut venir s'enrichir. La preuve, Ali Darras est le patron de l'or. Nous avons des informations selon lesquelles ce bonhomme se tape 30 kg d'or par mois.
Selon l'ONU, ces affrontements ont déjà fait plusieurs dizaines de morts et occasionné le déplacement de plus de 20 000 personnes. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Près de 200 migrants nigériens qui étaient détenus dans des centres de rétention dans la capitale libyenne ont été rapatriés aujourd'hui dans leur pays d'origine. Les migrants ont été rapatriés par avion depuis l'aéroport de Mitiga à l'est de Tripoli en coordination avec l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibour a joint le chef de mission Niger de l'OIM, Giuseppe Loprete.
Les flux de retour des migrants de la Libye n'étaient jamais arrêtés. Donc, depuis des années, les migrants reviennent. Dernièrement, ils reviennent plutôt par voie terrestre. Donc, ils arrivent à revenir de ces bas à Gatron, surtout les migrants qui sont coincés sur le territoire libyen et qui ne peuvent pas continuer vers le nord. Ils cherchent de revenir, ils payent les passeurs ou les personnes qui sont en train de les retenir en détention pour revenir sur le Niger et arriver quand même à Gadez et après dans leur pays d'origine. Mais il y a parfois des vols mais des vols de Tripoli ou d'autres, il y a eu un vol de Seba aussi, donc dans le sud de la Libye, vers Niamey. Les vols sont normalement gérés directement par la Libye et le Niger.
Comment se passe leur prise en charge une fois qu'ils reviennent au Niger?
L'OIM a à ce moment 5 centres de transit, d'accueil et de transit, 3 dans la région d'Agadez et 2 à Niamey. C'est dans les centres qui sont des centres ouverts et volontaires, donc les migrants acceptent de rester chez nous. Et du moment que les migrants acceptent, on commence à préparer leur retour vers les pays d'origine. Les migrants reçoivent l'hébergement, la nourriture, il y a des psychologues dans les centres, il y a des médecins, on travaille avec la Croix-Rouge nigérienne, par exemple, et d'autres partenaires pour les appuyer, COPI, une organisation ONG italienne. Et normalement, dans les 2-3 semaines, pas plus, les migrants dès qu'on a les documents, les papiers de voyage, les migrants peuvent continuer vers les pays d'origine et c'est toujours, les transports est toujours pris en charge par l'OIM jusqu'à leur village d'origine. Donc non seulement Dakar, c'est dans le cas des migrants sénégalais, mais vers les villages d'origine. Donc voilà toute l'opération. Il y a des cas où les migrants doivent rester quelques mois, ce sont surtout les mineurs non accompagnés, parce qu'avant de quitter le pays, on a besoin de l'autorisation des juges, le juge des mineurs. Donc pour faire tout ce processus, les migrants restent avec nous et sont assistés. Et dès qu'on a les laissez-passer, toutes les conditions sont remplies, ils rentrent chez eux, encore une fois, sur base volontaire et avec l'OIM.
Giuseppe Lopretti, le chef de mission Niger de l'Organisation internationale de la migration.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Aujourd'hui, à l'appel de la société civile togolaise, une marche s'est tenue dans les rues de Lomé. Objectif, mettre la pression sur les autorités et exiger la réouverture de 2 médias fermés la semaine dernière au Togo. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Cette manifestation organisée par les associations de défense des droits de l'homme vise à dire non à la restriction des espaces de liberté au Togo. Célestin Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme.
Le peuple togolais a lutté pour conquérir un certain nombre de droits dans ce pays. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a déjà animé de mauvaises intentions qui veulent tout faire pour remettre en cause tous les acquis de la démocratie. L'objectif de cette manifestation, c'est de pouvoir mettre fin à ce processus qui consiste à remettre en cause la liberté d'expression notamment.
Encadré par un dispositif sécuritaire et scandant des slogans hostiles au président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, quelques centaines de manifestants ont battu le pavé pendant 2 heures de temps. Parmi les manifestants, des hommes des médias à l'instar de Loïc Lawson, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Flambeau des démocrates.
Je suis à cette marche parce que je suis journaliste. Je défends la liberté d'expression. Je crois en la liberté d'expression. Et je pense que tout journaliste, quelle que soit la cause pour laquelle on ferme la radio, quelle que soit la cause, qu'elle soit justifiée ou non, doit sortir et manifester. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'être pour ou contre quelqu'un. Il s'agit de dire oui à la liberté d'expression. Il s'agit de dire oui à un Togo libre demain. Et on a besoin de cela.
Prévu pour aboutir devant les locaux de la RAC, la marche a eu pour point de chute un carrefour environ 2 km du siège de l'instance de régulation. Dans leur déclaration sanctionnant la manifestation, ces organisations de la société civile exigent la réouverture immédiate et sans condition des organes de presse fermés et demandent à la HAC de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse au Togo. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur le décret anti-immigration, le bras de fer entre Donald Trump et la justice fédérale, un texte contesté puis bloqué par un juge de l'État de Washington, mais qui génère encore de la confusion. Qui vise-t-il? Quels sont les recours possibles? Donald Trump qui fait appel peut-il passer en force? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
Ce 14 février, donc aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Si cette journée était surtout célébrée en Occident, Elle est de plus en plus marquée dans le calendrier des célébrations en Afrique. Comment est-elle vécue au Bénin? Reportage à Cotonou de Fleur Ginette à Dondé.
Boutique ornée de fleurs par-ci, restaurant proposant des buffets fastidieux par-là avec à la clé des propositions de cadeaux pour agrémenter ce jour de fête. L'ambiance est bonne pour faire chavirer n'importe quel cœur, même le plus froid. Mais voilà, ils sont nombreux à penser que la fête du 14 février a perdu de son charme pour devenir une fête purement commerciale, pendant laquelle certains se tuent pour offrir des cadeaux hors de prix pour des intentions inavouées. Pascal Okritosu est professeur de lettres et écrivain.
C'est devenu une fête où, malheureusement, mes sœurs, qui jusque-là sont en attente d'amour et qui n'en ont pas eu la preuve jusque-là, s'offrent en marchandises honnêtes à des jeunes garçons qui en profitent et pour leur enlever ce qu'elles ont dû conserver depuis des mois ou des années. Je suis fermement contre cette réception commerçante ou commerciale de la fête du 14 février qui fait que, malgré cette effervescence que les gens entretiennent autour de l'événement, mais ils ne sont pas prêts à se mettre à deux. Comment peut-on s'aimer, ce sera un amour de calendrier.
Fiacre d'Almeida est un commerçant. Il déplore quant à lui ce mercantilisme avancé qui fait que les femmes exigent même un cadeau le jour de la Saint-Valentin. Il parle de la banalisation de la fête de l'amour.
La fête est devenue un peu banale parce que à chaque fête, vous allez entendre qu'il y a promotion de ceci, il y a peut-être cadeau de cela, il y a donc de cela. Donc cela enlève à la fête elle-même son contenu et sa dimension.
Pour Mathieu, qui depuis quelques mois subit les affres du chômage, pas question de s'endetter pour offrir un cadeau hors de prix au nom de l'amour.
Je n'ai pas à prouver à quelqu'un que je l'aime en lui achetant un portable. Peut-être il peut m'arriver d'aller t'acheter un bouquet de fleurs. Il peut m'arriver d'aller t'acheter un bouquet d'oreilles. Je peux te remettre de l'argent juste pour te dire, mais tu as l'habitude de faire tel mets qui me plaît toujours. Il faut me faire ce mets-là et nous allons le manger ensemble ce jour-là.
Mouleroi Mouzouvi est sociologue de formation. Il reconnaît la pertinence de la fête de l'amour, mais déplore sa théâtralisation au Bénin et pointe d'un doigt accusateur les commerçants qui s'en tirent à bon compte.
En tant que tel, c'est une très bonne chose de célébrer l'amour. Mais je souhaite vivement que la tendance que prend cette fête au Bénin, on puisse aller au-delà. Ce qui me fait rire un peu dans cette fête de la Saint-Valentin, c'est le caractère ostentatoire qu'on donne à la fête. Le vrai amour ne fait pas du bruit et le bruit ne fait pas d'amour. Au-delà de cette gymnastique, au-delà de ce tapage social qui entoure cela, je vois aussi une certaine arnaque. Le mot n'est pas fort.
Les avis restent toujours partagés au Bénin sur cette fête qui, selon certains, reste une occasion de débauche, de libertinage. Et le plus décrié, la Saint-Valentin, serait une fête commerciale et rien d'autre. De Cotonou, Ginette Leadondé pour VOA Africa.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Sanga kwe atene Zwa kezo Kronka Andre Kolingba Atene Sozola Mama Katerina Samba Panza Atene Zwa Kenya Matitene Afalo Nambana Pe
Zwa kezo Sozola Zwa Kenya Mape Atene Afalo Nambana Nambana
C'est sur cette belle musique choisie par Georges Léonard Sagnot que nous nous quittons. Georges Léonard Sagnon, qui a d'ailleurs mis en onde cette édition. À la console, il y avait Nashwal Kale, présentation Abdelrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Restez également sur notre site internet voafrique.com. L'actualité 24 heures sur 24. Au revoir. Que sou